Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc Andiwa. L'émission est aussi mise en écoute sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, en conversation par Zoom, nous sommes avec Stéphanie Gentilhomme. Bonjour.
Bonjour à tous et bonjour à toutes.
Stéphanie Gentilhomme, vous êtes ici pour nous parler donc de cette organisation autour du campus sur le thème de l'eau, avec un titre, je crois, qui est...
De la poésie à l'action.
Donc ça va se dérouler du 23 au 26 mars hein, au campus à Eure, je pense, c'est ça ?
Exactement ça.
Et en préambule, il y aura aussi deux rendez-vous. Il y aura donc à Valence, au Luxe Scène Nationale, une projection suivie d'une rencontre avec le metteur en scène Pierre Salvadori. Donc une séance de cinéma qui parlera de la petite bande, hein, c'est ça ?
Oui, alors le prélude à Valence en collaboration avec le Luxe, que certaines de vos auditrices et auditeurs connaîtront certainement, puisque c'est une scène nationale qui propose de la danse, du cinéma, des concerts, nous accueille avec un film qui s'appelle La Petite Bande, qui est une comédie de Pierre Salvadori, qui est un réalisateur assez connu de comédies plutôt fines et intelligentes, et qui, pour son dernier film, s'est attaché à une bande de jeunes collégiens qui ont entre 10 et 12 ans et qui habitent en Corse, au bord d'une rivière qui est polluée par l'activité d'une usine, et qui ils se révoltent contre cette pollution et ils décident de faire sauter l'usine. Et s'ensuivent toute une succession de rebondissements, de surprises, de réactions. Donc c'est très 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 drôle. Et on a le plaisir de faire une double projection. Donc à Valence, on n'en parle pas beaucoup puisque votre émission passera après. Mais en tout cas, une séance scolaire qui a remporté un grand succès, une séance grand public le mardi soir. Et on a aussi le grand plaisir, donc ça c'est en compagnie de Pierre Salvadori, le réalisateur qui peut venir. Et on reprojette ce film le lendemain à Cray, au Cinéma L'Éden, à 14h30, avec un ciné-goûté et une rencontre. Pierre Salvadori ne sera plus avec nous malheureusement, mais nous commenterons le film après la projection avec deux représentants de collectifs, qui est l'un, le collectif Jeunesse pour le Climat, et l'autre qui est le collectif Parents pour la Planète, parce qu'il nous paraissait intéressant à propos de ce film qui montre des réactions très engagées, voire militantes, voire à la limite de la violence, face à une situation révoltante. Et la question qu'on posera aux personnes qui seront là sera jusqu'où peut-on aller pour défendre ses convictions, pour essayer de redresser des injustices, ou comment, quand on passe à l'action, jusqu'où on peut aller. Je précise pour les gens qui ne sauraient pas que Jeunesse pour le Climat, qui est un jeune collectif de collégiens et lycéens crétois, s'est fait remarquer ces derniers mois par des grèves scolaires, hein, à l'instar de ce que Greta Thunberg a initié et qu'on connaît bien. Donc voilà, à Cray, on a des disciples de Greta Thunberg, et ça nous paraissait intéressant parce que le film de Pierre Salvadori a été écrit donc par lui, en partie inspiré par le combat de Greta Thunberg. Donc c'est intéressant de voir que cette dynamique se propage assez largement, et on avait à cœur d'écouter les jeunes sur ces questions de changement climatique et de maltraitance des rivières.
Vous parlez donc de ce film qui résume en gros l'engagement et l'action de jeunes collégiens face à la pollution de leur rivière par une industrie. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a moyen, il y a une question aussi de discerner violence et action?
Alors, je pense que le discernement, il est très personnel et chacun met la frontière où il ou elle le souhaite et ce qui est possible compte tenu de nos contraintes professionnelles et personnelles. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose de très personnel, mais je pense que quand on voit ce qui se passe en termes de dérèglement climatique et le peu d'actions officielles et institutionnelles qui sont menées, mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question justement de est-ce que il n'est pas temps de passer à autre chose et entre autres de passer à de la résistance citoyenne ou voir des actions telles que Extinction Rébellion, hein, pour ne citer que les plus connues et qui fédèrent assez largement et de plus en plus. Donc voilà, il y a pas mal de pistes d'action et ça va d'ailleurs être le sujet de notre table ronde d'ouverture donc du vendredi 24 mars au campus à Eure, où on a deux films qui se répondent un petit peu, qui sont des films courts et qui parlent, l'un, Viossa Forever, qui parle de mobilisation citoyenne en faveur de la Viossa, qui est une rivière balkanique qui est menacée par la construction de plusieurs barrages et qui a donné naissance à une résistance citoyenne vraiment très, 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 très transversale et large. De l'ordre de la manifestation, assez relativement pacifique. Et l'autre film qu'on va montrer, c'est un film qui s'appelle The River Is Me, qui est un film qui date de quelques années, mais qui montre ce que les Maoris de Nouvelle-Zélande ont réussi à obtenir en matière de reconnaissance juridique de leur fleuve, qui s'appelle la Whanganui. Donc il y a cette approche juridique, hein, se donner les moyens de protéger l'entité rivière par des mesures juridiques officielles. Il y a le militantisme citoyen de terrain et on va également, parce qu'on aura différents intervenants, donc on aura Marine Calmé qui est déjà intervenue aux rencontres de l'écologie de Die, hein, qui est une juriste fondatrice d'un cabinet spécialisé dans la défense des droits de la nature. On aura Louis Seyé, qui est journaliste correspondant pour différents médias français dans les Balkans et qui suit la question des rivières balkaniques avec beaucoup d'attention parce que les Balkans concentrent beaucoup de projets de production hydroélectrique qui sont pour certains vraiment démesurés et qui sont de nature à vraiment mettre en danger la santé des rivières. Donc il se passe beaucoup de choses dans les Balkans. Donc il viendra témoigner de ce qui se passe là-bas. Et on aura également Agnès Ducharne, qui est chercheuse au CNRS, spécialiste du cycle de l'eau, et qui elle-même est une scientifique militante qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Scientifiques en Rébellion, et qui d'ailleurs se forme à Extinction Rébellion, avec comme motivation, on l'entend dire ça, de dire que il y a eu toute une époque où les scientifiques étaient entendus des pouvoirs publics et où on prenait leurs travaux en compte dans les décisions politiques. Et il y a un certain nombre de scientifiques qui ont l'impression que c'est plus du tout le cas, que ça fait 20 ans qu'ils tirent la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique, entre autres, et qu'ils ne sont pas entendus. Et c'est comme si la science de ces domaines ne servait à rien. Et qui se disent, notre travail scientifique seul ne suffit plus et il faut agir autrement en parallèle, mais il faut ajouter d'autres moyens d'action. Donc,
alors,
c'est toutes ces Pardon.
Oui, alors ça c'est pour vendredi. On va peut-être aussi un peu introduire la durée, dès le début hein, de ces rencontres. Donc il y a ces deux rendez-vous le 21 et le 22 mars, donc avec cette projection. La question qui vous a amené aussi à cette organisation de festival, c'est aussi l'assèchement des rivières et ce bouleversement climatique. Et donc, la question que vous vous êtes posée, c'est comment agir?
Exactement, parce que le festival existe depuis 4 ans. On a évidemment toujours comme fil conducteur l'importance et la fragilité des rivières, hein, qu'on montre par différents biais, différents choix de programmation. Et les choix de programmation de cette année ont évidemment été tout à fait impactés par l'été que nous venons de vivre, hein, que tout le monde a en mémoire et qui, pour de très nombreuses personnes qu'on a rencontrées, a été vécu comme une espèce, comme une souffrance de voir nos rivières souffrir. C'est très violent. Et face à cette souffrance, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est ben, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir. Et c'est en réponse, en tentative de réponse à ces questionnements, qu'on a décidé de choisir comme thème de cette année justement le passage à l'action, d'où le thème de cette année qui s'appelle de la poésie à l'action, hein, puisque les rivières sont des milieux éminemment poétiques et inspirants. Mais en danger. Donc, comment faire et quelles sont les pistes, les idées, les conseils à retenir pour se mettre en mouvement et agir chacun à son échelle pour protéger nos rivières.
Voilà, et donc pour ces 3 journées hein, qui vont se suivre, il y aura des documentaires, des fictions, des courts-métrages jeunesse, des expositions et puis, comme vous le disiez, des rencontres avec des experts. Les rendez-vous, pour connaître le programme, il faut se rendre sur le festival-du-6, les yeux dans l'eau. .fr et là, vous avez toute la programmation donc établie.
Oui, l'intégralité de la programmation se trouve effectivement sur le site internet. On recommande aussi les réseaux sociaux qu'on alimente, on fait un gros effort d'alimenter les réseaux sociaux. Donc on a un Facebook, c'est Festival Les Yeux dans l'eau, et un Instagram, Festival underscore, donc le tiret du dessous, Les Yeux dans l'eau. Notre compte LinkedIn également, Festival international du film de rivière. Voilà.
Il y a cette mobilisation, hein, elle se voit autour de vous aussi, d'ailleurs, localement.
Oui, bien sûr. On sent que la question de l'eau, de la ressource en eau, alors elle se voit au niveau national, hein, et même si on n'est pas très consommateur de médias, on voit beaucoup de sujets traités par les médias sur les sécheresses, les pertes de biodiversité directement liées aux rivières. Localement, il y a pas mal de choses qui se passent et qui se manifestent un petit peu par des questionnements et des participations à des réunions publiques. Il faut mentionner, hein, bien sûr, l'acteur officiel de la gestion de notre rivière Drôme, qui est le syndicat mixte de la rivière Drôme, qui voilà, est en ce moment dans une phase où ils doivent répondre peut-être de façon beaucoup plus aiguë qu'avant aux questionnements, voire aux revendications de la population dans des réunions publiques ou des réunions d'information sur les réseaux sociaux aussi, dans les médias. Voilà, on sent que le sujet ne laisse personne indifférent et on s'en félicite puisque c'est, comme on le sait, la rivière, c'est la vie. Donc on sent que les gens sont très sensibles et le sont de plus en plus.
Alors cette année, vous êtes accueilli au sein du campus et par la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée. Donc il y a cette considération aussi de cette intercommunalité sur cette problématique de l'eau. Est-ce que pour vous, il y a moyen de pérenniser aussi cette activité entre vos deux structures, Drôme, etc., donc environnement, territoire et culture.
Ben, on le souhaite vraiment et pour nous, ce partenariat avec la communauté de communes du Val de Drôme, qui est récent, hein, puisqu'il date d'il y a quelques mois, c'est vraiment important. Ça envoie un signal fort sur le fait que notre travail soit reconnu par une institution. Et qui était ce partenariat, il était assez naturel pour deux raisons. C'est déjà la première communauté de communes qui, dans la Drôme, à ma connaissance, a eu une réflexion sur la rivière, donc déjà depuis les années 90. Donc c'est historiquement l'endroit qui a accueilli le premier SAGE de France. Donc, SAGE, schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Donc, il y avait déjà une impulsion, une vision historique de considérer la rivière comme ressource fondamentale. Et d'autre part, cette communauté de communes a pour particularité d'avoir engagé un travail au long cours sur la culture à l'échelle intercommunale. Et a mené depuis l'année dernière une série d'ateliers participatifs sur ce qu'ils ont appelé une exploration du territoire à laquelle on a participé, qui a réuni tous les acteurs de la culture. Alors la culture vraiment au sens large, hein, pas seulement les manifestations culturelles, mais aussi l'éducation, la petite enfance, le milieu professionnel, pour déjà mettre en commun tous les cerveaux et toutes les énergies pour essayer de faire émerger un projet de territoire en ce qui concerne la culture et le territoire ou à l'échelle de la communauté de communes. Donc, on est vraiment ravis de participer à cette démarche qui nous paraît vraiment innovante et pleine de potentiel. Et c'est pour ça que notre partenariat prend tout son sens avec une collectivité qui est voilà, ambitieuse et très dynamique dans ce secteur.
Il y a cette rivière donc en Nouvelle-Zélande à qui on a attribué une réelle identité, il me semble.
Oui, c'est la première fois dans le monde où une rivière a reçu un marqueur d'existence juridique, c'est-à-dire qu'on la considère comme une personne. Et ce que ça implique ensuite, c'est que les atteintes à cette personne sont punissables par des actions juridiques. Voilà, c'est pour résumer, hein, c'est vraiment l'essence de cette mesure, qu'une pollution, eh ben, elle va être automatiquement si condamnée et poursuivie, etc., etc. Et c'était l'exemple historique qui a été suivi ensuite par le Gange. Le gouvernement indien a pris la même décision de donner au Gange une existence juridique. Et il y a eu d'autres endroits. Il y a très récemment un fleuve canadien qui a reçu cette même existence juridique. Et à ma connaissance, en France, la seule démarche qui soit vraiment avancée, enfin non, pardon, il y en a deux, enfin il y en a une en France qui est la Loire, avec le Parlement de la Loire qui mène un travail à cet effet depuis quelques années. Et le Rhône fait l'objet d'une réflexion à ce sujet, alors à ma connaissance, plutôt pour l'instant au niveau suisse. Au niveau français, je ne suis pas sûre que ça soit très avancé. Ce qui est intéressant par rapport au contexte néo-zélandais et au contexte canadien, c'est que ces initiatives sont le fruit souvent d'une action vraiment déterminée par ce qu'on appelle maintenant les peuples premiers. Hein. Donc, je parlais des Maoris tout à l'heure par rapport à la Nouvelle-Zélande. Au Canada, il s'agit également de peuples premiers, donc ce qu'on appelle les Amérindiens, pour qui les rivières sont dans la culture, la cosmogonie, leur quotidien, déjà perçues comme des entités qu'on vénère même certaines fois, parfois, et donc dans leur culture et dans leur mode de vie, le respect, voire la vénération de ces entités va de soi. Ce qui n'est pas du tout le cas dans notre culture occidentale où voilà, on est extractif, productiviste, matérialiste. Donc c'est, on a certainement des leçons à apprendre des peuples premiers en ce qui concerne leur respect pour ces ressources vitales.
Vous parliez du Rhône aussi, pour qui, sur lequel la Suisse s'est attelée à lui donner une identification juridique. Ce qui est facile pour la Suisse, c'est que ça concerne l'État de Genève, hein, je crois, qui est la source du Rhône. Par contre, au niveau de la France, il y a beaucoup d'écueils administratifs, géographiques. Est-ce que ce serait une difficulté à affronter, justement pour essayer de voir si on pourrait appliquer cette attribution d'identité.
Oui, je pense que la question du millefeuille administratif français qu'on connaît bien et dans lequel on vit est probablement un obstacle, mais peut-être que justement le fil conducteur et la motivation commune serait de réunir autour du patrimoine immatériel, puisque voilà, la bureaucratie est là, les différents échelons administratifs sont là, c'est compliqué, mais donc ça peut diviser des initiatives, mais qu'est-ce qui rassemble potentiellement ces initiatives? Bah, c'est la symbolique, le patrimoine immatériel, la contribution aux imaginaires, ça c'est rassembleur. Donc je suis pas c'est pas mon rôle d'intervenir dans ces sujets-là, mais moi je vois là une piste de réflexion, c'est-à-dire le patrimoine immatériel, personne ne peut le contredire, et chacun à son niveau, à sa vision de la rivière, son ressenti, sa sensibilité, et tout le monde par ce biais-là peut être amené à en prendre davantage soin.
Nous pouvons aussi présenter, hein, le reste de la programmation qui vont se dérouler de ces présentations qui vont se dérouler sur ces 3 jours. Alors, des documentaires, est-ce qu'on peut en annoncer quelques-uns?
Oui, bien sûr. Alors, on a un focus qui nous fait très plaisir, qui est consacré à un documentariste local que vos auditrices et auditeurs connaissent probablement. C'est Nathanaël Coste qui s'est distingué par un film qui a été beaucoup vu, et je suis sûre que dans le DIY, il a été beaucoup vu, qui s'appelle En quête de sens. Donc, Nathanaël est basé à Cray et est en train de finaliser un film documentaire sur la question de la résilience alimentaire et la production agricole alimentaire dans la vallée de la Drôme. Et Nathanaël nous fait le plaisir de faire un extrait de son film. Donc, il n'est pas consacré à l'eau en particulier, mais l'extrait lui-même concerne toute la question de la ressource en eau. Donc, il viendra nous présenter cette capsule. Samedi après-midi à 14h30, avec après le film, une table ronde justement sur la question de l'irrigation, dont on sait qu'elle peut cliver et générer des désaccords et des différences de vision. Donc on aura une discussion à ce sujet. Donc ça, c'est un peu le focus drômois de notre programmation documentaire. On a également samedi après-midi, enfin fin d'après-midi et soir, un merveilleux moment de poésie et d'action avec deux films du même réalisateur. Le premier s'appelle L'appel des libellules et le deuxième s'appelle Julien, le marais et la libellule. Les libellules, comme ça fait pas mal de le redire, sont au même titre que les abeilles. Des marqueurs très 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 puissants de la santé, de la biodiversité, des milieux naturels. Et les libellules, que tout le monde trouve merveilleuses et poétiques et élégantes et irrésistibles, sont en grand danger, principalement du fait de l'artificialisation des sols et de l'agriculture intensive et de l'assèchement des zones humides. Donc le premier film, L'appel des libellules, est un petit peu scindé en deux parties. Une première partie où on voit les libellules dans toute leur beauté, leur originalité, parce que ce sont vraiment des insectes extraordinaires. Et la deuxième partie montre les dangers auxquels elles font face. Donc ça, c'est le premier film. Après ce premier film, Fabien Mazoko sera en rendez-vous visioconférence avec nous. Il ne pouvait pas être présent pour la présentation de son film parce que c'est le 25 mars et c'est une journée qui est une journée d'action militante contre les méga-bassines prévues dans le Marais Poitevin. Et lui sera sur place pour filmer. Il est en train de faire un documentaire là-dessus, justement. Donc il interviendra, il nous dira comment ça se passe là-bas. Et il introduira son deuxième film qui s'appelle Julien, Le Marais et la Libellule, qui est un portrait d'un Julien, comme le titre l'indique, qui est un amoureux du Marais Poitevin et qui est un personnage très très attachant et qui adore le Marais Poitevin, sa naturalité, les libellules et qui a décidé de s'engager contre les projets de méga-bassines. Et voilà, on terminera la soirée de samedi avec ces deux films. Donc, je voudrais quand même un petit peu insister pour les éventuels auditrices et auditeurs qui penseraient que parler des libellules, oui, c'est pas forcément super important, mais si justement, parce que parler des libellules, c'est parler du contexte dans lequel elles vivent. Et il s'agit donc dans la lignée de notre thème de cette année, de parler de passage à l'action. Donc c'est les libellules, comment faire pour que les libellules, mais au sens large, c'est-à-dire leur milieu, ne soient pas livrées à l'artificialisation et aux décisions probablement mauvaises pour tout le monde. Non, il y a plein d'autres, parce qu'on a 13
Ah,
films en tout, hein, donc.
qui seront à découvrir donc sur le site. Vous parlez d'exposition.
Oui, alors on a une triple exposition. On a deux artistes qui ont travaillé sur des rivières drômoises, enfin des rivières en partie drômoises, et des collections qui nous sont prêtées par le Fonds du patrimoine du département de la Drôme. Donc Bernadette Tinto est une photographe qui a travaillé sur la Bourne et qui a une série. Qui s'appelle Voie d'eau et une autre série qui s'appelle Aqueduc. Donc le titre est suffisamment évocateur pour qu'on comprenne ce qu'on pourrait y trouver. Et le deuxième photographe, c'est Bertrand Stofflet qui a travaillé sur le Rhône. Sa série s'appelle Rodanie, pardon. Et qui, lui, a une approche de la photographie qui est très intéressante, qui est vraiment mise en scène. Donc déjà, il prend ses photos depuis une grue, donc pour prendre de la hauteur, et il intègre à ses portraits de rivière, entre guillemets, enfin de fleuve, des personnages qui sont soit spontanément sur place, soit des gens qu'il met en scène. Donc c'est assez humoristique et il y a une vision vraiment originale du Rhône. Et le troisième élément de l'exposition, c'est une exposition qui est à la fois visuelle et sonore. On est vraiment très content d'accueillir la carte sonore de vos collègues de Radiola, de Diolfi, qui ont travaillé l'année dernière sur un travail d'écoute du territoire. Sur la mémoire des habitants de Diolfi, sur un sujet qui est pas directement rivière, mais qui est profondément lié à la question des rivières, qui est la question de la pluie, les mémoires de chute de pluie, de tout ce qui se passe avec la pluie, et qui est retranscrite visuellement à travers une carte sonore. Donc il faut imaginer une table. Sur laquelle sont présents tous les petits cours d'eau du pays de Diolfi, et avec des boutons sur lesquels on appuie et qui permettent d'écouter des témoignages. Donc, la carte a été réalisée donc pour la partie audio par la radio Radiola et pour la partie visuelle et cartographie par un géographe cartographe qui s'appelle Noé Guiraud. Et c'est un très bel objet qu'on est ravis d'exposer à notre festival. Et qui est une approche différente de ce qu'on pense d'habitude en pensant exposition. On ne pense pas forcément qu'il peut y avoir le côté visuel et le côté audio. Donc, ça nous a beaucoup plu. Et on aura aussi, alors là, ce n'est pas vraiment d'exposition, mais on aura aussi des livres sélectionnés par la librairie La Balançoire, qui est la librairie indépendante de Crest, et qui permettra pour celles et ceux qui le souhaitent de continuer la réflexion en achetant des livres stimulants, esthétiques, etc., en repartant chez eux.
4 années d'existence pour ce festival Les Yeux dans l'eau, créé par donc l'association Drôme, etc., était mis en avant à ses débuts la rivière, effectivement, et la poésie. Quelle place occupe-t-elle encore dans ce festival?
Ben, la poésie, elle est omniprésente parce que, alors là, je vais parler en mon nom propre, je ne parle pas au nom de tout le monde, mais il me semble que il est difficile de se mettre au bord d'une rivière et de pas se sentir apaisé ou emporté, inspiré, transporté par la beauté d'une rivière. Donc la poésie, elle est inhérente au milieu rivière. Ça, je pense qu'on est presque tous d'accord là-dessus. Et la poésie, elle est aussi présente, peut-être de façon plus facile à percevoir dans les films de fiction. Et on en a des films de fiction. Je vais citer en exemple notre film de clôture, qui est La Nuit du Chasseur, donc qui est un film qui est un classique. Hein. On a pour tradition de terminer tous nos festivals avec un film classique. Donc celui-là, il date de 1959. Non, 55, pardon. Et donc c'est un peu un ovni créatif parce que il y a des partis pris de style qui sont vraiment intéressants. C'est un film en noir et blanc qui a été réalisé par Charles Laughton, un acteur que certaines et certains connaissent, et qui est une interprétation. Alors c'est un espèce de thriller, hein, bien sûr, mais la poésie de la rivière. Elle est vraiment très présente dans plusieurs scènes du film, et dont une scène marquante où, alors je résume vraiment très brièvement les prémices et l'histoire. Ces deux enfants qui se retrouvent orphelins, leur papa, depuis sa prison, enfin, avant de partir en prison, a caché un butin, le butin d'un hold-up qu'il a fait. Un pasteur qui est joué par Robert Mitchum, avant de ce trésor caché, et décide de faire en sorte que les enfants lui indiquent où est le trésor. Donc évidemment, les enfants ne veulent pas lâcher le trésor, et ils tentent d'échapper à ce personnage vraiment peu recommandable et très très cruel. Et il y a une scène de poursuite au bord de la rivière, donc c'est au clair de lune, en noir et blanc. C'est une scène absolument très marquante.
Onirique, presque.
Ouais, onirique, et vraiment, je pense qu'on ne peut pas la voir une fois sans qu'elle reste en mémoire. Et c'est vraiment, peut-être pour cette édition, le symbole de à quel point la rivière. Alors là, pour le coup, dans cette histoire spécifique, c'est le sauvetage, quoi. C'est la rivière qui sauve les enfants, parce que s'il n'y avait pas la rivière, ils seraient vite rattrapés par ce personnage. Et la rivière, dans toute sa beauté et sa poésie, est vraiment extrêmement bien mise en scène dans cette scène.
Je mettrai justement cet extrait sonore, puisqu'il y a une chanson aussi à ce moment-là, pour terminer cette émission. Drôme, etc. Donc, 4 ans d'existence, une équipe qui est confortée dans son action aussi.
Alors, une équipe de, je précise, 100% bénévoles, hein. On a aucune salariée à ce jour parce que nos moyens ne nous le permettent pas, mais une équipe solide d'une dizaine de bénévoles vraiment très actifs. J'en profite pour rebondir sur l'actualité. Et vous m'en excuserez, mais je trouve que le sujet est vraiment d'actualité, la question des retraites. Et au cœur des préoccupations actuelles, il se trouve que un grand nombre de nos bénévoles actifs sont des retraités. Alors, j'aime plus trop le mot retraité parce que dans le mot retraité, il y a le mot retrait. Et ces personnes incarnent le contraire du retrait. C'est des personnes qui sont profondément engagées. Et je trouve que c'est important de dire que, ben oui, quand on finit sa vie professionnelle officielle, on peut s'engager dans des actions qui bénéficient à un territoire, à la population au sens large, parce que justement on a encore de l'énergie et des idées à partager. Donc voilà, pour faire le petit clin d'œil sur l'actualité, je trouve que c'est important de le dire. Et voilà, mais j'en profite pour dire qu'on est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, notamment, et c'est important parce que c'est le cœur de notre activité, regarder des films. Parce que quand on décide de programmer des films, bah, on aime bien avoir un grand nombre d'avis qui nous permettent de faire des choix éclairés. Donc plus on est nombreux à voir des films et à donner notre avis, plus c'est représentatif. Donc s'il y a parmi vos auditrices et auditeurs des gens qui aiment voir des films, voire en trouver, en identifier avec nous, nous sommes toujours très friands et friands de bénévoles supplémentaires, notamment pour visionner des films et donner un avis, puisque plus on a d'avis, plus c'est représentatif et intéressant. Et je disais que si ça stimule et titille des auditrices et auditeurs, ben bienvenue. Le choix le plus agréable serait que la personne vienne au festival et se rende compte de ce qu'on vit et comment on organise les choses. Et en deuxième choix, c'est de nous envoyer un mail à l'adresse organisation@festival-lesyeuxdanslo.fr et de nous dire, ben voilà, je suis intéressée pour participer à la commission programmation. Parce qu'on est toujours, plus on est nombreux, mieux c'est.
Vendredi 24, il y a cette soirée également, avec, au-delà de ces projections, d'autres propositions.
Oui, alors projection plus table ronde rencontre, hein, comme toute notre programmation, mais avec un intermède musical et festif à partir de 18h, 18h30, ou peut-être même, voilà, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas très fixé sur la précision, on ne sait pas si ça débordera ou pas, mais voilà, c'est festif et très convivial. Et pour les gens que ça intéresserait, je précise que c'est à tarif libre. Voilà, on donne ce qu'on peut, ce qu'on veut. Et je précise simplement que comme on pense que la soirée aura du succès, c'est pas mal de penser à réserver parce que ce serait dommage de ne pas pouvoir rentrer. L'amphithéâtre du campus a une capacité de 140 places, donc on ne pourra pas accepter de personnes au-delà. Donc il vaut mieux, si on est intéressé, réserver sa place ou ses places. Donc à la même adresse, organisation. @festival-lesyeuxdanslo.fr.
Stéphanie Gentilhomme, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps sur Air du Bois pour nous parler donc de ce festival Les Yeux dans l'eau, quatrième édition, avec un titre Rivière de la poésie à l'action. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous, Yves. Merci à Air du Bois. Bonne soirée.
Au revoir.
Once upon a time, there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away, flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away, flew away into the sky.